Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le jeudi 7 octobre et vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbok. Je suis toujours là, je vous ai dit, je suis jamais loin. La dernière fois, je vous avais dit, j'avais des soucis médicaux, mais bon, c'est pas ça qui devrait m'empêcher de faire l'émission, en principe. Sauf que cette fois-ci, je vous avais dit, c'était un peu plus compliqué. J'avais prévu de, vous savez, dans la logique de, je crois, c'est, je sais plus comment il s'appelait, celui qui est décédé, là, un écrivain, qui avait écrit sur le protocole compassionnel. Je trouvais ce titre-là formidable. En gros, c'est ce qui se passe à l'hôpital, la prise en charge, comment on gère les patients. Mais comme nous sommes au Cameroun ici, c'est devenu une chose assez compliquée que moi je vois. Au début, j'en parlais, mais vraiment, et jusqu'à présent d'ailleurs, j'en parle avec le plus grand respect, sauf quand c'est des choses incompréhensibles. Et des choses incompréhensibles ici, il y en a beaucoup, mais on va me dire ben, incompréhensible par rapport à quoi? Incompréhensible si c'est par rapport à la norme occidentale ou internationale, bah, ma pauvre, tu es larguée parce qu'ici, on a notre système à nous et il faut ça, comment je veux dire, en prendre son parti ou alors s'en accommoder. Vous voyez, pour quelqu'un qui a passé 35 ans à l'étranger, je sais plus à peu près, c'est ça. Hein. C'est assez difficile et c'est assez compliqué. Et en même temps, vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'adapter, y compris aux choses auxquelles je pensais jamais que je pouvais ni m'adapter ni survivre. Mais plus vous essayez de vous rapprocher d'eux, plus vous voyez que l'autre chemin n'est pas fait à la limite. On arrive maintenant à une forme de rodage ici en permanence chez moi, sourde, des gens entrent, il suffit que j'aille à la salle de bain, enfin un peu plus loin, que je ne sois pas au séjour. Dans le séjour, quand je reviens, je trouve que quelqu'un fait un dispositif vite fait. Ça dit, c'est vraiment quelqu'un qui rôde à côté. Et d'ailleurs, j'en ai chopé un jour, il était placé là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, rien. Il attend d'observer parce qu'il y a une conjonction entre ceux qui surveillent de l'intérieur, qui installent les caméras, et leurs agents à l'extérieur et qui leur disent, le champ est libre, va poser ci, va poser ça. J'ai vécu ça à Villefontaine, je vous assure. À chaque fois que je sortais pour aller faire mon jogging, je revenais, je trouvais qu'il y a eu quelqu'un est passé. Les gens sont passés, ils ont fouillé, parfois ils ont déplacé des choses, ils les ont pas remises où il fallait. Ou alors l'instant d'après, je verrais ça dans les médias, les choses qu'ils ont vues chez moi, parce que c'est ça le système. Hein. Le système parle beaucoup aux gens. Quand vous lisez, vous entendez réseaux sociaux, presse et tout, la plupart des articles sont basés sur la vie des gens. Toute l'actualité pratiquement est basée sur la vie des gens, de ce qu'on vient fouiller chez vous, de ce qu'on sait de votre famille et qu'on essaye de généraliser, et des provocations qu'on va construire sur ceux qui ne sont pas aligné sur le système. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, mais ça devient inquiétant. Enfin, inquiétant, c'est... Vous savez, la dernière fois, on va partir sur une base simple. La dernière fois, après l'émission, quelles ont été les retombées? J'ai parlé de la friperie qui prenait beaucoup, enfin, dont on s'interrogeait sur le rôle trouble, dans ce sens que non seulement il tuait la mode africaine, mais il tuait tout le travail qui était fait autour de la SICAM, la société camerounaise qui faisait des pagnes, et il tuait aussi tout ce qui est créativité. Bon, ça n'a pas plu, et ça n'a pas plu à qui? Vous n'allez pas croire, ça n'a pas plu justement à ceux qui vendent la friperie. Donc, depuis ce moment-là que j'ai constaté que vraiment, je suis obligé de faire ma clé dès que je pars du salon, parce que si je ne ferme pas, quelqu'un va entrer, va déposer quelque chose, va toucher à quelque chose. La dernière fois, cette personne est allée dans la cuisine, a pris des bouteilles, est venue les déposer, des bouteilles vides, est venue les déposer comme ça sur la table, tout simplement parce que mon neveu était venu quelques jours avant avec deux bouteilles de grenadine. Alors il les a prises, les deux bouteilles de grenadine vides, il les a posées sur la table, il est ressorti. C'est quand même d'une lâcheté et d'une... ça pas de nom, c'est des animaux, ça, je veux dire. Parce que j'ai parlé de ça, ces gens arrivent, la friperie est venue, on est même venu en vendre pratiquement devant chez moi. À 50 francs, CFA, c'est-à-dire ça ne représente rien, c'était bradé. La provocation comme ça, sourde. Dès que les gens se font du fric, vous voyez, ils deviennent des bêtes. Ils deviennent des bêtes. Il n'y a même plus une réflexion possible derrière. Et c'est les mêmes gens qui vont faire des reproches au gouvernement Biya. Il faut qu'ils arrêtent. Je veux dire, et en plus, la plupart de ces fripiers, ce sont justement les gens du parti de M. Kamto, de l'opposant MRC, qui du coup vont se retrouver ici sur la même ligne que le gouvernement. Alors je ne vois pas de quoi ils vont se plaindre. Et en plus, venir me menacer comme ça, c'est incroyable. Et c'est permanent. On met des choses dans la poubelle. Là, aujourd'hui, je crois qu'on a essayé de casser une vitre. Voilà, je vois une fente bizarre. C'est-à-dire la menace est sourde après qu'on ait essayé de brûler la chambre en envoyant une haute tension qui a tout fait sauter l'électricité là-bas. Je vais à la Eneo, il faudrait qu'elle vienne constater la compagnie. Et que voulez-vous faire avec les Africains? Vous parlez de la musique qu'il faut baisser, on se fâche. Que vous en parliez ici en ville ou que ce soit au village, c'est pareil, on se fâche. Il n'y a pas moyen de pouvoir dialoguer un tout petit peu. Aujourd'hui, on ne dialogue plus, hein, si vous avez remarqué, il n'y a plus de dialogue, il n'y a que des oukases. Et sinon des menaces, et puis vous la fermez, voilà. C'est-à-dire, nous sommes passés, quand on parle encore de la démocratie aujourd'hui, que si les gens s'emmerdent avec ça. Il n'y a plus de démocratie, il y a de la tyrannie, c'est tout ce qui reste, la force. La force, on est devenus tous les régimes aujourd'hui sont post-Hitler, et c'est pas étonnant, on s'occupe pas de la sécurité des gens, ce dont on s'occupe, c'est de pouvoir... Tous les faits de corruption qu'il y a ici, et ce qui est impressionnant, c'est que je vais dire deux ou trois choses, c'est tout, vous ne pouvez pas tout citer, parce qu'après on va dire, oh là là, elle arrive, elle dénigre son pays d'origine et tout pour faire plaisir aux Blancs. Moi, je fais plaisir à personne. J'essaye, de là où je suis, de faire en sorte qu'on vive mieux ensemble, comme on dit ici, et que quand même... Il n'y a pas ces grosses injustices. Vous avez par exemple aujourd'hui ce qu'on appelle ici la Commission nationale de la lutte contre la corruption, la CONAC, qui est carrément vampirisée par des gens qui sont très malhonnêtes et qui ont trouvé que la meilleure couverture était d'aller être membre du CONAC, soit du comité, soit des commissions, soit et tout et tout. Et c'est comme ça qu'ils infiltrent ces gens-là à qui vous donnerez le bon Dieu sans confession. Il y en a qui ont 60 ans, 70, 80. Et de toute façon, plus vous êtes retraité de la fonction publique, mieux vous savez bien tous les rouages de tout cela. Alors, aller à la CONAC, c'est un peu rigolo. Bon, vous voyez des choses, vous voyez des choses. Vous ne pouvez pas détailler parce que ça va créer des problèmes. Je suis dit, c'est pas possible. Des gens qui ont été à l'école, qui vous bras, je dis, qui brandissent des diplômes et qui sont incapables d'accepter un simple débat sans aller voir des bandits derrière qui vont vous menacer à la rue ou qui vont venir carrément chez vous détruire des choses. Mais on va où dans ce monde? On va où dans ce monde? Et quand on voit que quand même, c'est la façon dont un président français, celui qui va partir là, j'espère bien, parce que comme on ne veut pas élire Mélenchon, ben on a ce qu'on a. On a du n'importe quoi là, de tout ça qui grouille là. Tout le monde sent qu'il peut être président, tout le monde se lève. Avant, les gens avaient, ça possède de la même logique. Les gens avaient un minimum d'honnêteté intellectuelle pour reconnaître quand même que l'autre est mieux placé que moi, ou il est plus instruit, ou il est plus érudit, ou que la fonction lui va mieux qu'à moi. Mais aujourd'hui, c'est comme c'est la société des voleurs. hein, qui a pris le pouvoir, ben, un voleur égale un voleur. Hein, où est la différence? Il n'y en a pas. Le fripier, il est égal au ministre, d'ailleurs, qui va s'en servir pour venir, par exemple, vous emmerder. Je suis pourchassé de partout. Je suis allé à l'hôpital pour faire un pansement. La suite de ce que je vous ai dit. Eh bien, j'ai une petite gargote là où je mange quelque chose vite fait pour prendre vite fait un cachet. Ah ben, j'ai trouvé une qui était assise là. Elle faisait semblant de téléphoner. Elle a commandé la même chose que moi, forcément. Elle fait semblant de téléphoner. Et elle téléphone à qui? Sa copine, c'est Viviane, forcément. Ma meilleure copine ici au quartier. Oh, Viviane, oh, le machin. On parle d'un quartier condom à côté de là où j'habite à Messassi, forcément. J'ai bu du. Qu'on appelle cette boisson Malta. J'ai pris de la Malta. Et parce que je me sentais vraiment pas bien, à la fin, j'ai même pas pu manger. J'ai demandé à cette dame d'emballer, je vais partir. Et quand je sors, l'autre sort vite fait. Et elle demande, oh, est-ce que je peux boire quelque chose? Vous avez quelque chose ici, comme la Malta? Bon, vous voyez un peu, c'est grotesque, c'est grossier. C'est en permanence, on envoie des gens comme ça vous poursuivre partout où vous allez. Genre, vous avez des menaces sourdes. Et là, c'était une femme. Des fois, ce sont des hommes, mais les hommes, eux, quand ils viennent, c'est pour vraiment commettre des actes d'agression, enfin, qui ressembleraient à des agressions, parce que vous ne pouvez pas rentrer chez les gens comme ça. Ça se multiplie et on ne peut pas dire qu'on fait avec. On ne peut pas dire qu'on fait avec et je comprends pourquoi. Par exemple, les journalistes, vous ne les verrez pas à la rue, ils ne sont pas accessibles parce que justement, il y a des gens comme ça qui ne comprennent pas les enjeux et qui vont agir comme ils vont agir, comme des animaux. L'autre conséquence qui est à un niveau plus élevé, c'est Pandora Papers. Les Pandora Papers, c'est une bonne chose parce que ça vient, ça arrive comme ça. Enfin, c'est une bonne chose, ça fait partie du système. Alors, on comprend maintenant pourquoi tout ce qui est sportif, tout ce qui est acteur, tout ce qui est chanteuse, tout ce qui est, 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 on pensait que c'est la franc-maçonnerie, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est tout simplement des petits fripiers, on va les appeler comme ça, qui échappent. Qui organise l'évasion fiscale. Et si c'était que ça, on parle aussi de blanchiment d'argent. Bien sûr que l'Afrique est devenue une grande lessiveuse, mais quand vous regardez les Pandora Papers, vous voyez bien aussi que c'est une réponse à ce qu'on a dit sur l'Afrique du Sud. C'est une façon de dire que, ben oui, si les autres n'ont pas rendu la terre, ça procède d'un phénomène international, de l'accaparement de l'argent, de la confiscation des territoires de la rente, comme j'ai appelé, et que ce n'est pas la peine de se focaliser sur l'Afrique du Sud, c'est un phénomène mondial. Oui, la preuve, il semblerait qu'en Afrique du Sud, immédiatement, il y a eu des sanctions suite à une action qu'ils appellent State Capture, un truc comme ça, tout ce qui a été bouffé à l'État. Autour de Zuma, ça a été Jacob Zuma, ça n'a pas loupé, surtout que j'ai dit que c'est lui qui menaçait de faire des révélations. Alors là, avant qu'il aille faire ses révélations, ah, il va voir, c'est comme ça aujourd'hui. Tu vas faire des révélations, et bien déjà, vous, on vous ramasse tous, on vous met en tôle. Bon. Voilà, c'est ça la démocratie. Alors les Pandora arrivent là avec la force de l'international. En France, bon, on s'acharne sur des SK, c'est normal, parce que j'avais semblé dire quand même que ce qui était arrivé à DSK, qui était quand même situé entre Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande, n'était pas très 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 correct. Alors évidemment, les amis de Monsieur Sarkozy, qui a eu la condamnation que vous connaissez, bah, il n'était pas content, il fallait bien qu'il se venge sur quelqu'un. Paf, on s'est vengé sur DSK, on l'a mis sur la place publique. Un consultant par rapport à tous les chefs d'État et tout le reste, c'est rien du tout ça. C'est rien du tout. Son évasion fiscale. Ailleurs, chacun a pris ses exemples. Hein. Chacun a pris ses exemples. Bon, ailleurs, si. C'est les chefs d'État africains qu'on épingle beaucoup. Ailleurs, c'est bon, enfin, chacun met ce qu'il met, mais toujours est-il qu'il y a environ 331 personnalités. Et encore, ça, ce n'est qu'un aspect des choses, de l'optimisation fiscale. Bon, autant de choses qui font que. Après, on s'étonne que les sociétés sont. Les nations s'appauvrissent. La pauvreté des nations. Et on crée de l'argent pour venir faire du développement, et pour faire la décentralisation ici. Mais autant de choses, franchement, on a mal quand on vit dans le monde aujourd'hui, parce que quand on voit sa bestialité et son projet vide de sens, parce que si le seul projet, c'est l'argent, pour certains en plus. Et pour les autres, le brigandage, le sauve-qui-peut, l'ensauvagement, c'est ça. Bon, bah, que faut-il faire? On va continuer à se battre, mais c'est désespérant parce que autant en Occident, peut-être qu'il y a des marges, mais autant alors quand vous êtes en Afrique, vous vous rendez compte que les gens sont passés à un stade où on pouvait comprendre, parce que quand vous êtes pauvre, bon, vous n'avez pas, on peut dire oui, c'est normal qu'ils se battent le pauvre. Mais quand vous commencez à avoir quand même un peu d'argent et que vous restez aussi féroce, sinon plus, ça interroge sur. Il faudrait une émission sur l'âme noire, sur l'âme africaine. Parce que quelqu'un a déjà écrit sur l'âme des peuples, où il parlait de l'âme britannique, l'âme allemande, l'âme française, l'âme italienne, mais peut-être, c'est Monsieur Reich, peut-être faudrait-il une âme africaine, parce que l'âme africaine, elle est finalement très tordue, on comprend plus trop ce qu'il voulait. Au départ, on nous a dit c'était l'indépendance, et finalement, ce n'est plus l'indépendance, on ne sait pas ce que c'est l'argent, c'est l'argent. Tout ça pour qu'on arrive à des problèmes aussi, je veux dire, c'est tellement trivial, l'argent, l'argent, l'argent pour l'argent, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Les grands hommes qui avaient cette notion de laisser dans l'histoire des réalisations, ben, il n'y en a plus aujourd'hui, on cherche l'argent, on cherche l'argent, et pour avoir cet argent, évidemment, il faut avoir le pouvoir absolu. Pour avoir le pouvoir absolu, il faut corrompre tout le monde et initier tout le monde à la corruption. Et finalement, on a quoi comme société? Des sociétés de voyous. Je vais terminer. Ça ne sera pas très long, ce flash, parce que vous voyez, vous ne savez même pas par quel bout le prendre, que vous preniez par le mimétisme qu'on a inventé aujourd'hui. Pour l'utiliser comme une forme de harcèlement des gens sur l'espace public, dans le dos du législateur, de la justice, de tout le monde. Que vous preniez ces comportements de plus en plus lâches et mesquins, que vous preniez ces pathologies institutionnelles qui sont entretenues par les êtres humains. Moi, je sais que quand je vais dans des bureaux maintenant, c'est l'Afrique, je vais dire. Franchement, j'aimerais bien ne plus avoir à en parler parce que ce n'est pas du tout intéressant. L'Afrique n'est pas intéressante, elle ne se rend pas intéressante. Après, elle dit, oh, ben la diaspora. La diaspora, parlons-en. Et elle viendrait faire à quoi ici? La diaspora peut pas, contrairement à ce qu'elle croit, elle peut pas vivre aujourd'hui en Afrique dans les conditions qui sont là, qui sont que bah, ce n'est pas vraiment la tête du gouvernement qui vous fait problème. C'est la classe moyenne, la classe normale, les gens ordinaires qui vont vous bloquer le passage et qui vont vous compliquer la vie et vous pourrir la vie. C'est ça le pire, c'est-à-dire que la tête de tout ceci n'a plus besoin de rien faire. Le message est passé, et ils sont là à se disputer, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Et quand vous êtes de la diaspora, vous êtes alors la victime désignée pour le racket, pour le pillage, pour le harcèlement, pour. Comment je vais dire, l'obstruction, moi je vais dans des bureaux, j'ai l'impression qu'il y a une coordination incroyable entre ceux qui sont chargés de surveiller les vidéos. Vous entrez dans le campus, tout de suite on sait où vous irez, tout de suite on avertit la personne disparaît. Et il y en a même qui disparaissent tellement vite qu'ils oublient de fermer leur bureau, le bureau est ouvert. Ah, oh, il est là, il n'est pas là, il est machin. Vous venez, oui, je suis venu pour tel dossier. Oui, laissez, on va vous rappeler, on vous rappellera jamais. Et ça, j'y ai fait quatre ou cinq bureaux, cinq personnes différentes pour le même dossier. On vous rappellera, on ne rappelle jamais. Sauf si on me dira, le réseau ne passait pas. Donc, pour terminer, parce que en Afrique, finalement, et puis peut-être l'âme africaine est telle que, et c'est pas que l'âme africaine, c'est au-delà de cela, que quand vous combattez pour les gens, l'ingratitude et la violence sont les choses auxquelles vous devez le plus vous attendre. Donc, à un moment donné, peut-être laisser les gens se démerder. J'ai reçu une vidéo d'un jeune qui fait dans la communication digitale, je ne sais pas trop c'est quoi, mais ça, la mode ici, et qui, enfin, me l'a transféré. Un jeune qui allait quelqu'un de bien et qui interpelle le Premier ministre camerounais sur une situation qui est banale, mais qui ne l'est pas du tout, et qui rejoint très bien ce qu'on disait sur la braderie du patrimoine national. Voilà, c'est ça. Les Asiatiques vont s'installer, il y a une société qui a fait faillite, et puis finalement, ce garçon a constaté que la société a cédé ses locaux à une marque chinoise qui va ouvrir bientôt et qui s'appelle Minimall. Alors, Minimall, derrière, c'est tout un business. Ça veut dire que, par exemple, c'est comme si Alibaba fermait tout là-bas et venait s'installer au Cameroun et que vous achetiez tout sur place et donc vous n'avez plus de possibilité comme avant. Les commerçants camerounais, les jeunes, ils partaient d'ici, ils allaient acheter en Chine et venaient revendre. Ça va être fini. Ils faisaient une marge. Il n'y a plus de marge. Minimal sera ici. Donc vous n'allez plus en Chine en ce moment quand ils vont demander des visas. Ah voilà, ça ne marche plus. Mais ce n'était pas ça l'accord de départ. Peu importe, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est le nouveau monde. Vous voulez dire quoi? Rien, vous regardez, vous, de temps en temps, vous en parlez, mais quand ça n'a pas d'impact et de force culturelle et de philosophique, ça devient très peu intéressant. Et donc, ce garçon s'alarme, il s'alarme auprès du Premier ministre qui a déjà fort à faire, hein, parce qu'il est en ce moment dans la région du nord-ouest, sud-ouest, pour essayer de voir comment on peut négocier la paix, ce qui n'est pas simple. Et il l'interpelle pour lui dire, alors, monsieur le Premier ministre, que voulez-vous que nous, la jeunesse, nous fassions? Nous ne pouvons plus faire de marge, on achètera sur place, et comme on achètera sur place, on achètera déjà. Il n'y a pas une culture ici de la fabrique qui promeut la fabrication locale, dont la dépouillardise. Et les produits vont arriver, dont les effets de concurrence déloyale, on n'en parle même plus, c'est tellement, c'est basique. Et il demande, mais il a cité des rues sur Douala, où les chaussures pour se chausser aujourd'hui, c'est les Indiens qui vous chaussent avec les Chinois, je crois déjà. Les vêtements, c'est les Chinois et je sais plus qui. Bon, la friperie dont on a parlé. Et puis Minimall qui va arriver avec tous les gadgets possibles et imaginables. Vous savez, ils sont très forts dans le truc. Bon, à la limite, moi, je ne peux pas faire de reproche aux Chinois. Vous trouvez un peuple d'idiots. Ou de vendus qui sont prêts à vendre leur père et mère et la terre, ben alors qu'ils la prennent. Voilà, c'est ce qui va se passer. Bon, le jeune y promet, parce que là, les jeunes, vous savez, les jeunes, hein, C'est le grand slogan dont on parle, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Mais ici, au Cameroun, c'est la gérontocratie qui est toujours là. C'est des anciens fonctionnaires qui se sont recyclés dans la décentralisation. Ils sont tous élus là-bas. Ils ont toujours un truc, un coup d'avance parce qu'ils connaissent les rouages de l'administration. Ils savent où trouver l'argent à partir des projets bidons. Donc, que de toute façon, personne ne vérifie, hein, c'est comme ça. Il suffit que tu dises que tu as un projet et tu l'amènes, tu vas le faire, tu vas pas le faire. Ça, c'est un autre problème. On regarde pas trop, on regarde même pas, on regarde même pas. Pourvu que tu aies pu t'en sortir, tu as eu soit des subventions, soit, je sais pas, payé, je sais pas quoi. Et c'est très bien. Donc, la jeunesse, c'est un outil de propagande politique, ça a toujours été. De temps en temps, on fait un grand recrutement comme ça, on embauche des gens, oui, c'est vrai. Mais au fond, tant qu'on n'a pas réglé la question de l'industrie, tant qu'on n'a pas réglé la question de la créativité, tant qu'on n'a pas réglé, ouvert le monde culturel et l'esprit, hein, à l'innovation, on ne peut pas y arriver parce que ce sont des choses qui touchent d'abord à la liberté. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas réfléchir d'une certaine manière, vous voyez. Et quand on dit aussi liberté, ça veut dire qu'on vous aide aussi à faire. Et pas seulement avec des grands plans, des grands programmes, des grandes sessions, des grandes conférences. J'ai vu ça en France, j'ai rigolé. Évidemment, on n'arrive à rien. Sauf ceux qui savent encore manipuler le système qui s'en sortent, vous voyez, les conférenciers et tout ça. Mais au fond, ceux pour qui les actions sont destinées, c'est-à-dire les jeunes, ne bénéficient presque rien de tout ces grands spectacles, conférenciers et tout cela. Bon, donc la jeunesse camerounaise, elle se bat comme elle peut. Puis moi, le Cameroun, en plus, comme je vous disais, l'âme africaine, quand vous en parlez, faites attention. Parce que vous vous dites, ils sont pauvres. Ouais. Mais après, vous voyez qu'ils sont organisés de façon telle que chacun peut manger au Cameroun, on ne meurt pas de faim. J'ai pas vu ça. Ni au village. Au village, on ne mange pas les trois repas, mais on mange. Ici, en ville, je suis à la limite là. Et j'ai pas vu qu'on mange pas. On mange. On mange, les gens mangent. J'ai pas vu qu'on se soigne pas. Les gens se soignent. Pourtant, c'est très, très, très cher. Le dernier épisode. Donc, vous savez, après, vous comprenez plus très bien où se trouve, où se loge exactement la pauvreté au Cameroun. Si tout ça aussi n'est pas, si les populations aussi ne sont pas aussi dans ce système pervers là, où elles disposent la vérité sur leurs revenus. Vous voyez, quand vous rentrez là, il faut faire très attention. Une fois vous arrivez avec votre cœur et vos sentiments, après vous dites, ah, attention, il faut pas trop rentrer là-dedans parce que si les choses sont plus floues et plus ambiguës. Sinon, qu'est-ce qui allait m'arriver? Je vais finir quand même avec ça, parce que dans le protocole compassionnel sur lequel je voulais dire une ou deux choses, mais on va se fâcher, parce que avec les hôpitaux ici, la prise en charge, ça c'est quelque chose. Donc, j'ai été une première fois incisée pour une piqûre qui a mal tourné, qui s'est enflée, et ça n'a pas donné. Donc, je suis allé à une clinique, la clinique a pu faire beaucoup mieux, parce que là, j'ai eu affaire à un chirurgien. Et pas un généraliste qui vient charcuter n'importe comment alors qu'il peut pas s'en servir, il peut pas, enfin, il n'a pas les compétences pour cela. Alors en clinique, ah, ça chiffre, ça chiffre. Et c'est là où je disais, mais le nombre de Camerounais que je vois en clinique qui se soignent, bah, on peut pas dire que le Camerounais est pauvre, non. Donc il y a quelque chose à voir là au niveau des enquêtes et des déclarations internationales qui n'est pas du tout clair. Et peut-être que le gouvernement, pas peut-être, le gouvernement doit, les gens du gouvernement, quand j'ai du gouvernement, c'est toute la fonction publique haute, ceux qui ont accès à l'argent, qui ont des budgets à gérer, peut-être qu'ils soutirent, sûrement qu'ils soutirent. Mais en bas, il y a un système opaque et pervers où il faut entrer avec beaucoup de délicatesse. Donc j'arrive à cette clinique, bon, bref, on va passer différentes soins. Et les factures arrivent à fleuve tellement. Je dis, bon, attendez, vos factures qui arrivent comme ça, moi, si j'ai plus d'argent, attention, 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 là, dites-moi exactement à peu près combien ça va coûter tout ça. On ne sait pas. On vous prend juste en charge, après on verra. Mais là, après on verra, vous savez, c'est quoi, après on verra? C'est qu'on peut vous séquestrer à l'hôpital. Je me lève le mercredi matin où je devais sortir. Déjà, je constate que quelqu'un a arrêté la perfusion en pleine nuit. Ah, on a beau aller voir la dame le matin pour lui dire, moi j'ai mon garde-malade, c'est mon neveu, la perfusion s'est arrêtée. Oui, j'arrive, oui, j'arrive, oui, j'arrive. Elle n'est jamais arrivée. Le médecin arrive plus tard et je m'aperçois d'ailleurs cette matinée, j'ai tellement attendu et je m'aperçois que on a volé mon téléphone. Ah, voilà, on a volé mon téléphone. Ici, on a ces téléphones nous servent de porte-monnaie électronique. Donc, il va avoir des problèmes. Je n'aurai pas l'argent pour payer pour ma sortie de l'hôpital. Oh là là là, catastrophe. Où est le téléphone? Oh là. Alors, pour eux, c'est sûr que j'ai fait un coup parce que j'ai pas d'argent pour payer et tout parce que j'ai dit une fois que ces factures qui arrivent comme ça, c'est impressionnant quand même. Si vite, si vite, si vite et sans arrêt. Et finalement, je le disais, d'autant que j'avais déjà dépensé de l'autre côté, la première fois on m'a raté. Voilà, donc ça fait beaucoup d'argent, c'est pas trop. Et bref, le médecin intervient, il fait le pansement, il regarde tout, il dit tout va bien, il fait la note de sortie et tout. Je lui dis, ben, monsieur le médecin, là, moi j'ai un problème, je vous dis que mon téléphone est perdu. Ah, l'administration n'est pas responsable. Nous, on est responsable de rien ici. C'est comme à l'hôtel, quand vous venez, vous vous occupez de vos effets personnels. Je dis oui, mais ça, c'est une chose. Le problème, c'est qu'il faut que je sorte de l'hôpital pour avoir de l'argent pour pouvoir vous payer. Là, en ce moment, je ne peux pas. Parce que lorsqu'on sort de l'hôpital, c'est MTN, hein, le fameux réseau. Vous y allez et. On reconduit votre puce, donc votre argent, il revient et vous pouvez tout payer là tout de suite. Et il me dit, mais comment on fait? J'ai dit, mais là, moi, j'ai 12 000 francs, c'est CFA, hein, je ne sais pas quoi, comment vous dire ça, j'ai rien, j'ai plus rien. Donc, je peux vous donner tout juste 10 000 francs, le temps que je prenne ma course avec les 2 000 francs, j'avance ces 10 000 francs et je reviens soldé. Ah, pour lui, il ne voit pas vraiment d'inconvénient. Il me dit, bon, ok, il s'en va. Et moi, je ne comprends pas le système très bien. Je demande aux infirmières de m'enlever la perfusion. Elles étaient deux tellement contentes, protocole compassionnel. Elles me disent, ah non, on ne peut pas. Pour enlever cette perfusion, il faut que vous nous rameniez le bon de sortie, c'est-à-dire que vous ayez effectivement tout payé à la caisse. Wow. Alors, j'ai dit, ben, je fais comment? Le chirurgien était là, il fallait lui dire. On va à son bureau, on lui présente le problème. Il me dit, mais c'est pas possible, comment on va faire? Alors, il m'envoie la caisse quand même pour poser la caisse. Il dit non, nous, on peut pas. Alors, il essaie de voir le chef comptable. Non, l'administration, non, tout le monde, non. Finalement, par un coup de chance inespéré, vous savez, il y a toujours. Un autre médecin il est venu lui parler. Là, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils sont repartis en comptabilité. Ils ont trouvé un moyen et j'ai pu sortir. Et c'est comme ça qu'on a pu signer le bon de sortie, la ramener et les infirmières ont pu me sortir les menottes. Moi, j'appelle ça les menottes. C'est un peu que j'allais être comme M. Sarkozy. D'ailleurs, c'est impressionnant parce que c'était le même jour où M. Sarkozy a été condamné à avoir le bracelet électronique chez eux. Donc, c'est pour vous dire que ces choses-là même sont prévues d'avance et qu'on avait aussi prévu, donc je pense comme le vol de mon téléphone fait partie. Vous voyez un peu la relation, comme par hasard, j'ai mis le temps à l'hôpital, on ne vole pas mon téléphone, mais là, ce jour-là, on le vole. Et moi aussi, je dois avoir un bracelet condamné à l'hôpital à ne pas sortir. Et ici, ça arrive, vous êtes là, vous attendez. Si votre famille n'arrive pas avec l'argent, vous sortez pas. Bon, j'avais trouvé ça impressionnant quand même, impressionnant. Surtout que l'une des infirmières ne s'est pas gênée une fois qu'elle me soignait. prendre des ampoules chez moi, aller y mettre, aller soigner quelqu'un d'autre, piquer quelqu'un d'autre. Je lui dis, mais c'est mes effets que vous prenez pour aller piquer. Ah oui, je prenais juste. Je lui dis, ah non, non, quand même, vous auriez pu me demander. Et le médecin, il a entendu tout ça, il n'a rien dit. Bon, le protocole compassionnel, on ne va pas en parler au Cameroun parce qu'il y a des choses et des choses. Donc, voilà, je n'ai pas été sous bracelet électronique. Inch'Allah, j'ai réglé le bon de sortie. Mon téléphone a disparu dans l'affaire. L'argent de MTN, quand il revient, il manque l'argent. Et je fais tout de suite un virement d'un compte à compte. Allez, pap, l'argent aussi est pris. Donc, en gros, 50 à 60 euros, je ne sais plus, qui ont disparu comme ça, en l'espace d'une heure ou deux, peut-être 80 euros, je ne sais plus, du compte par des malversations inexplicables, inexplicables. C'est-à-dire qu'ici, il arrive des choses, dès que vous avez un peu d'argent, on va vous créer une panne ou une situation qui va faire en sorte que cet argent, il doit sortir, voyez? Et dans mon cas, il y a déjà comme une organisation, vous voyez, pour que je ne revienne pas en France. Ah, c'est formidable, hein? Ça veut dire que tout ce qui va m'arriver à partir de maintenant sera fait en sorte que je ne gagne pas un sou. Et si je l'ai gagné, comme à l'université, ben, il sera payé au calende grec, c'est-à-dire que j'oublie, parce que personne ne peut me donner l'information, je demande seulement l'information et une idée des délais, personne n'en sait rien, personne ne connaît la procédure, c'est tout juste si je ne suis pas le premier vacataire à l'université, ce qui n'est pas possible. Il y a eu des vacataires avant, on peut voir. D'après ce qui s'est passé, la trajectoire, qu'ils ont été payés au bout d'un certain temps. Mais je ne vois plus, je n'ai plus accès ni au chef de département, je n'ai plus accès ni aux intendants, je ne trouve personne, je ne veux plus rien demander, je reste dans mon coin, je m'assieds, et puis je me tais, parce que c'est ça qu'on demande ici, comme partout ailleurs, à tout le monde. Taisez-vous, on vous rackette. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt. Vous avez écouté Flash sur le monde, d'Élise Mbok depuis Yaoundé, où tout est fait pour que je ne revienne pas en France. Et on verra bien. L'homme propose et Dieu dispose. Même comme aujourd'hui, nos dieux, ce sont nos chefs de l'État qui se sont organisés en clans, où on dit n'entre pas ici, ou n'entre ici que ceux qui sont géomètres, vous savez, la grande formule, franc-maçonne. Oui, et donc ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le clan, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous voyez ce que ça veut dire? On pervertit une grande idée comme ça d'un philosophe et qu'on ramène à un niveau bestial, à un niveau commercial, à un niveau marchand de tapis. Amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde pour Radio Silence. Voilà, c'était Élise Mbok depuis Yaoundé. Je vous dis à bientôt.